rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint-Pierre François Néron, ou François Néron simplement, un saint français qui est mort en 1860 et qui était né en 1818. Ça ne lui donne pas grand temps, n'est-ce pas, 42 ans à peine. Et c'est un nom que l'on retrouve dans le bottin de téléphonique de Montréal, François Néron. Oui, il y en a un à Sainte-Julie. S'il écoute, je le salue. Et il y a même, j'ai compté, 129 Nérons dans notre bottin de Montréal. C'est dire que c'est un nom, pour ainsi dire, québécois. C'est un saint vraiment merveilleux et très attachant que ce martyr, prêtre des missions étrangères de Paris. On peut commencer avec cette parole. Maître, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre nouvelle patrie. On connaît cette parole, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. Ce sont des mots qui ont été prononcés le 3 novembre 1860, le jour de sa mort, à Son Thai, au Vietnam, par le lieutenant-colonel qui était chargé de l'exécution de l'abbé Pierre-François Néron, prêtre des missions étrangères. L'officier, oui, était descendu de son cheval et lui avait dit avec beaucoup de respect, l'empereur, le roi, les grands dignitaires du royaume et les grands mandarins de la province vous ont condamné. Alors, maître, pardonnez-moi et souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre éternelle patrie. Alors, l'abbé Pierre-François Néron a été canonisé avec 116 autres martyrs du Vietnam le 19 juin 1988. Je dois donc faire amende honorable, puisque la semaine dernière, je vous ai parlé de deux évêques dominicains et espagnols et d'un évêque français et de leur à peu près 75 à 80 martyrs vietnamiens et chinois. Vous avez dit qu'ils avaient été béatifiés. Bien, ils ont été canonisés le 19 juin 1988, il y a 10 ans. Dans les textes que j'avais, je n'avais pas ce détail important, très important. Alors, des évêques, donc, comme vous voyez, des prêtres français, vietnamiens, beaucoup de laïcs vietnamiens ont été englobés dans ce même décret de canonisation, dont ceux dont je viens de vous parler. Et je leur ai accordé une émission la semaine dernière. Ils sont morts martyrs au cours des persécutions de Minh Mang, hein, vous vous souvenez de Thu Duc, les empereurs vietnamiens. Quelques-uns, comme Saint-Joseph Marchand, dont je vous parlerai un jour, et Saint-Théophane Vénard. Je vous en parlerai, ce fameux Théophane Vénard, le 2 février prochain. Ils sont plus connus, ceux-là. Saint-Pierre-François Néron, les moins. Mais son témoignage a impressionné si profondément ceux qui l'ont vu vivre et mourir au Vietnam que les païens eux-mêmes en ont été très, très, très profondément impressionnés. Pierre-François Néron, né le 21 septembre 1818, cinquième d'une famille de 9 enfants d'un pauvre cultivateur de Borné, B-O-R-N-A-Y, petit village à 9 kilomètres au sud de Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, c'est quand même le chef-lieu du Jura. C'est un peu une petite ville importante, ça, Lons-le-Saunier. Mais il partage son enfance entre la garde du troupeau, comme l'a beaucoup d'enfants de cultivateurs dans ces régions-là, là, puis l'école du village. Et comme tu sais son âge, s'occupe de troupeau. C'est sa condition. C'est un bon écolier et on le remarque comme bon travailleur. Bon travailleur parce qu'il aime le grand air, d'ailleurs. Il aime les jeux aussi, il aime le bruit. Il aime ses bêtes, mais aussi il aime les danses, comme on dit dans ces régions-là, la vogue. Il est le bout en train de la classe, il est le bout en train aussi des parties... ils s'amusent beaucoup, ont beaucoup de plaisir, ces jeunes, mais ils ne réfléchissent pas tellement, hein. Il fait comme les autres, sa première communion à l'âge de 12 ans, et à 17 ans, il y a un changement qui se produit. Chez lui, au milieu de sa bande de frères et de sœurs, il aime tout à coup s'isoler. C'est qu'il a, on lui a remis un petit livre. Il s'est mis à lire ça. Ça s'intitule « Pensez-y bien ». Oui, parce qu'il faut bien y penser à un moment donné, quand on a 17 ans, à quoi sert la vie? D'où vient-on? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette boule qu'on appelle la Terre? Alors il se met à lire d'autres petits livres religieux, qu'on appelle aussi souvent des opuscules, n'est-ce pas, dans les termes religieux, souvent. Et il lit surtout, ça va rappeler des souvenirs à bien des gens de mon âge, les annales de la propagation de la foi. Oui, je vous ai déjà parlé de la propagation de la foi et de sa sainte fondatrice, une laïque qui a fondé la propagation de la foi à Lyon. Pauline Jaricot, femme remarquable. Mais peu importe, c'est publié ça, donc les annales de propagation depuis 1822, et alors c'est assez nouveau, ça fait que quelques années à peine que ça paraît, ça l'intéresse beaucoup, puis il se met à communier une ou deux fois par mois, ce qui était surprenant pour un jeune homme à l'époque, mais ça nous surprend, nous qui communions tous les jours, souvent un peu trop mécaniquement. Et puis, il aime aussi à se recueillir à l'église, à dire son chapelet en gardant ses bêtes. Son curé, qui s'appelle Monsieur l'abbé Clément, eh bien jamais Monsieur Clément n'a eu un jeune paroissien aussi édifiant. Sa conversion est vraiment surprenante. Un jour, à la sortie de l'église, François Néron l'aborde et lui dit « Ah, Monsieur le curé, oui, Monsieur le curé, si c'était encore le temps, si je pouvais encore étudier. » Et le curé, M. Clément, tente évidemment de le dissuader parce qu'il est trop âgé et puis les ressources de sa famille sont beaucoup trop maigres. Et François répond assez fermement mais poliment, « Essayons toujours. » Alors le supérieur du séminaire de Lons-le-Saunier est consulté puis il est du même avis que M. Clément. Ce jeune homme, François Néron, est déjà bien formé aux travaux des champs, c'est un bon paroissien. Ça va comme ça, ça suffit, c'est très bien. Puis ici de Saint-Paul, quel étrange supérieur de grand séminaire, qui dit que chacun demeure dans sa vocation à laquelle il a été appelé. Une parole de Saint-Paul. Mais voyons, quand même. Mais le jeune François Néron, lui, il insiste, il insiste très, très fort. Et alors, le curé finit par le prendre à l'essai au presbytère. On faisait ça, on les prenait au presbytère pour leur enseigner un peu le latin et différentes choses. Alors, à 19 ans, François se retrouve sur les mêmes bancs que des condisciples de 12 ans au presbytère. En 2 ans, le jeune François a si bien rattrapé son retard qu'il est admis en 1839. Donc, quasiment 21 ans, au petit séminaire de Nozeroy, où il entre, toujours dans le Jura, où il entre en cinquième à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire quoi, en syntaxe, si vous voulez. Pour ceux qui se souviennent de leur cours classique ou des classes du cours classique, et le voilà, la vocation tardive, lui, vocation tardive, au milieu d'une bande de jeunes mouks, turbulents et sans problème. Et c'est une situation difficile à laquelle il fait heureusement face à force d'ardeur au travail. Et puis, il est devenu humble. Et surtout, il sait prier. Mais il reste lui-même. Il ne sait pas de jouer aux petits gars, puisqu'il est avec des petits gars. Ni au grand, qui serait plein de sagesse et d'expérience. Il ne fait pas la leçon au petit. Et puis, il s'intéresse toujours aux annales de la propagation de la foi. Or, ici, au séminaire de Nozeroy, il sait qu'il a été précédé, il y a 25 ans, par Isidore Cagelin, car il est rendu dans ce petit séminaire. Et Isidore Cagelin, qui va mourir pour la foi au Vietnam en 1833. Donc, pas plus de 6 ans auparavant, ça l'a beaucoup impressionné. Et après 5 ans passés à Nozeroy, dans ce petit séminaire, François Néron fait ses 2 ans de philosophie à Notre-Dame-de-Vaux, Puis en 1845, il entre au grand séminaire de Lons-le-Saunier, puis au bout de 9 mois, il prend sa décision de tout faire pour partir en mission. Oui, il veut être missionnaire. C'est décidé jusqu'au tréfonds de son être, vous allez voir. Alors, il hésite entre les jésuites, qui envoient beaucoup de missionnaires, mais qui ont beaucoup de collèges aussi, parfois des paroisses. Il y a les lazaristes, les disciples de Saint-Vincent de Paul aussi, qui partent en mission, mais ils ne font pas que ça. Puis il y a les missions étrangères, sur la rue du Bac, ça, aujourd'hui. Il faut voir ça, aller visiter ça si jamais vous allez à Paris. C'est bien plus intéressant que la plupart des choses qu'on peut voir. Hein. Les missions étrangères. C'est tout près de la chapelle de la Médaille miraculeuse, derrière le Bon Marché. Alors, son diocèse de Saint-Claude a fourni des hommes remarquables. Et il se décide rapidement, finalement, en faveur des missions étrangères. D'abord parce que tous ses membres sont assurés d'aller en mission. Et ensuite, parce que les missions étrangères sont alors chargées de l'évangélisation de pays où c'est très dangereux d'aller. Et il aimerait mourir martyr. Étrange. Après son admission, il fait part de sa joie à un ami qui hésite entre devenir trappiste ou bien de retourner dans le monde, de quitter le grand séminaire et de retourner dans le monde et se marier. Il écrit, c'est un grand ami à lui, il dit, en effet, mon cher ami, tout est consommé. J'ai reçu, il y a 8 jours, une seconde lettre de M. Langlois, le supérieur des missions étrangères, dans laquelle il m'engage à partir dès la fin de l'année scolaire. C'est vite fait, hein? Je n'aurai donc pas le bonheur de te revoir, toi qui m'es si cher, mon ami. Toutefois, mes vœux ne se bornent pas à moi et je songe aussi à tous ceux qui veulent bien m'appeler du nom d'ami, spécialement à toi. Je me vois heureux. Je te souhaite heureux. Bientôt, je me dirigerai vers Paris pour aller de là dans les contrées lointaines. Et en ce moment d'enthousiasme, c'est une des rares fois que François Néron laisse échapper des cris de joie dans sa correspondance, car ce bruyant bout en train d'autrefois, quand il était jeune, là, il s'est transformé en un jeune homme plutôt grave, assez réservé, presque renfermé. C'est une mutation due sans doute à l'isolement auquel l'a obligé le fait d'avoir accompli toutes ses études au milieu de condisciples beaucoup plus jeunes. Et cette retenue, heureusement, va aider ce nouvel aspirant missionnaire dans l'épreuve de l'adieu au pays. Hein. Il faut qu'il fasse ses adieux à sa famille, sa paroisse et au séminaire où il a étudié, les 2 séminaires, le petit et le grand. Et c'est lui qui se montre le plus brave, mais ce n'est pas sans difficulté car il a le cœur plus sensible qu'il ne le laisse paraître. On ne se douterait pas de la sensibilité profonde de François Néron sous son masque un peu réservé si on n'avait pas les lettres qu'il a continué à écrire à son ami et que son ami a conservé. Ça a avoir été, on dirait que c'est son seul confident, hein? C'est un jurassien. Ils sont jurassiens tous les deux. Ils viennent du Jura. Ils ont des racines là et ça a créé cette amitié qu'il a beaucoup de difficultés, François Néron, à développer avec des gens qui ne viennent pas du Jura, de cette région de la France, quoi. Il se trouve très heureux dans sa nouvelle maison de Paris, où il a été très bien reçu quand même. Il écrit à son ami, cette fois, « Mon cher ami, c'est de Paris, du séminaire des missions étrangères, de cette enceinte bien chère à mon cœur, que je te trace ces lignes. » Un « Te Deum », un chant d'action de grâce. Hein, c'est en latin, on chantait ça autrefois, très souvent. « Un « Te Deum », te crierai-je 1000 et 1000 actions de grâce. » Alors, je vous invite toujours à aller visiter le séminaire des missions étrangères à Paris, rue du Bac. Hein. C'est très intéressant. Ils ont un musée fascinant sur ces martyrs, justement. Alors, au pays, donc au Jura, qu'il appelle son pays, c'est là qu'il a laissé sa tendresse. Il écrit « Je voudrais bien avoir ici un ami tel que toi, avec lequel je puisse m'entretenir un peu, mais je me trouve privé de cette consolation et il me semble même que j'aurais de la peine à reformer de nouveaux liens. » Je ne m'attache pas de manière sensible ni à la maison, ni à mes confrères de séminaire. Ce n'est pas que je sois indifférent à leur égard, car je les aime tous en Jésus-Christ, mais je n'éprouve pas ces sentiments affectueux que j'avais et que je conserverai toujours pour mes amis du Jura. Au reste, j'en remercie beaucoup Jésus et sa Sainte Mère. Mes amis du Jura sont mes amis. C'est avec eux que j'aime à m'entretenir et c'est à eux que je fais part de mes petits secrets. Ce qui veut dire que la solitude de Néron, de François Néron, continue. Hein? Il y a toujours l'âge. À cette époque, on quitte couramment le séminaire pour les missions à 23 et 24 ans, très jeune. Hein? Quand il entre aux missions étrangères, François Néron en a déjà 27, il est plus vieux que les autres. Il semble bien, tant dans son aspect que dans son comportement, qu'il fait beaucoup plus vieux que son âge. En le voyant arriver, imaginez qu'il y a un des directeurs qui s'est écrié « Mais quoi, vous avez bien 40 ans? » C'est pas drôle quand on en a 27, se faire dire qu'on a l'air de 40. Alors, ça vous situe un homme, hein? Il est vraiment à part des autres. Puis ce nouvel aspirant a si mauvaise opinion lui-même que cette solitude lui semble toute naturelle. Et il écrit à son ami du Jura « Pour ce que je vaux moi-même, veux-tu que je te dise franchement, si le bon Dieu venait me dire de me juger et de prononcer moi-même ma sentence, je serais forcé d'avouer que ma place est au plus profond de l'enfer. » C'est bien dans le style de l'époque. Hein? Je vous la lis parce que c'est dans le style de l'époque. Cette espèce d'humilité exagérée. Hein? Alors, je serais forcé de dire au bon Dieu d'avouer que ma place est au plus profond de l'enfer. Seule la miséricorde infinie de Dieu peut me sauver. Heureusement, il y a là la connaissance de la miséricorde de Dieu. Il ajoute, et voilà celui qu'on appellera peut-être un jour un missionnaire. Alors, il y revient continuellement. Hein. Il dit la plus triste créature, le plus ingrat des hommes. Évidemment que cette humilité écrasante fait partie du genre littéraire pieux de cette époque. On en est heureusement sorti de ces choses qui sont souvent à l'eau de rose ou d'une sentimentalité exagérée. Soyons simples et humbles et vrais, c'est tout. La vérité, quoi. Mais quand on lit ces lettres, on est forcé de convenir que lui, peut-être, le croyait vraiment parce que c'est un saint. Vous allez voir, il est très jeune, il est déjà un saint. François Néron entre donc au séminaire des missions étrangères le 1er août 1846 à 27 ans, presque 28, comme je vous ai dit, et il va y rester 2 ans. Et quelle qu'ait été sa première impression, bien, il semble bien qu'il y reforme de nouveaux liens quand même. Là. Il se fait des amis. Il faut savoir que parmi ses conséminaristes, comme on dit, il y a des personnages vraiment, des futurs saints. Oui, canonisés. Il parle à son ami jurassien, en particulier d'un Basque. Vous savez qu'ils viennent du sud de la France, près de l'Espagne, là, où les Basques rêvent d'être indépendants de l'Espagne. Donc, il parle à son ami jurassien d'un Basque avec lequel il s'excite à tout souffrir pour le Christ et les âmes, dit-il. Il s'agit de Pierre d'Orisbourg, le futur apôtre des populations montagnardes du Vietnam. Il y a aussi Augustin Scheffler, qui va être canonisé, le futur martyr du Tonkin, saint Augustin Scheffler. Curieusement, Néron, le vieux, comme on dit, on l'appelle comme ça, il va se lier plus étroitement avec un jeune de 22 ans, au visage et à l'âme angélique, Jean-Louis Bonnard, qui va être canonisé aussi, saint Jean-Louis Bonnard, car c'est un futur martyr aussi, un grand martyr. Oh, tout jeune, il sera martyrisé presque en arrivant, lui. Qu'est-ce qui peut rapprocher deux hommes aussi dissemblables? C'est probablement la dévotion qu'ils ont tous les deux pour la Sainte Vierge. Ça les amène souvent au sanctuaire de Notre-Dame des Victoires à Paris, où tous deux demandent la grâce du martyr. Peut-être aussi que la réserve quelque peu ombrageuse de François Néron se trouve à l'aise avec la candeur de Saint Jean-Louis Bonnard. Le 17 juin 1848, François Néron reçoit l'ordination sacerdotale. Des mains de l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, lui-même bientôt presque martyr, comme je vous ai déjà dit dans 2 autres émissions. Cet événement capital va peut-être réussir à l'épanouir. Hein? En tout cas, on ne constate aucune manifestation d'enthousiasme quand il est ordonné prêtre, Et si curieux, ni dans son comportement, ni dans ses lettres. Au contraire, il semble rentrer encore un peu plus en lui-même, avec ses amis auxquels il fait part de ses secrets, c'est-à-dire, comme il écrit, Jésus et sa Sainte Mère, il leur confie ses secrets. Après l'ordination, la destination survient. Hein? Où est-ce qu'on va l'envoyer? Alors, Saint François Néron souhaite le Japon. Parce que, pense-t-il, c'est là qu'on a le plus de chance de cueillir, comme on dit, la palme du martyr. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une palme qui vient des arbres. On représente souvent les martyrs avec cette palme qui acclame la divinité du Christ, qui acclame celui pour lequel ils sont morts. Hein? Alors, cueillir la palme du martyr, c'est une expression très ancienne. On l'utilise encore comme ça, puis du figuré, évidemment. Au XVIIe siècle, oui, c'était possible au Japon de mourir martyr, mais on est alors au milieu du XIXe siècle. Et les aspirants aux martyrs se font souvent comme ça des idées sur les missions. Et sa destination, ils veulent l'avoir, c'est le Tonkin, le nord du Vietnam, et c'est là qu'il aura sa palme du martyr. Alors, le 9 août 1848, c'est le jour du départ. La direction, Dieppe et Londres, où les six qui partent ensemble embarquent à bord d'un bateau à voile, un clipper, le Land of Corks. D'ailleurs, en quittant la France en compagnie de l'abbé Guillemin, son ami, il a fait son sacrifice. Nous gardions un profond silence, tournés vers la patrie, la France, pour la saluer une dernière fois. Nous pensions à nos proches, à nos amis, à ceux que nous laissions sur cette terre qui déjà fuyait loin de nous. Si le bateau s'en va vers l'Angleterre. Alors, élevant nos âmes vers Dieu, nous lui avons renouvelé le sacrifice de tout ce que nous quittions pour lui. Alors, il va falloir, pour François Néron, sortir de son entourage habituel et se préparer à bien des surprises. Qu'est-ce qu'il trouve sur le bateau? Le Land of Corks, le bateau à voile, 100% de protestants. Alors, les six jeunes missionnaires se voient attribuer chacun une cabine individuelle et une chambre plus grande qui est mise à leur disposition. Avec la permission, heureusement, de la décorer en chapelle. Surprenant, hein? Ils mangent à la table du capitaine, et quand ils font remarquer au capitaine qu'ils désirent observer l'abstinence de viande le vendredi, dans ce temps-là, on ne mangeait pas de viande le vendredi jusqu'au dernier concile, eh bien, le capitaine répond qu'il n'y voit aucun inconvénient, puis même, il se soumet volontiers à cette observance catholique. Un bon protestant, hein? Alors, on se pose la question sur combien de bateaux prétendument catholiques on aurait pu voir des jeunes missionnaires aussi chouchoutés, si vous voulez, que sur ce navire d'hérétiques, comme on les appelait à l'époque. Décidément, ils se disent, ces missionnaires, qu'il doit y avoir du bon chez les protestants, et même chez les Anglais, disent-ils. Oui, c'est rapporté. Du coup, François Néron, pourtant peu doué pour la communication, songe à se mettre à l'étude de l'anglais, dans le but, dit-il, de ramener quelqu'un de ces braves gens à la vérité catholique. Wow! Enfin, c'est une façon de penser qui est peut-être pas si fausse, au fond, si nous formions tous une seule Église, si nous étions tous unis. Quel grand témoignage nous rendrions à l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, ces détails de la traversée nous sont connus non par François Néron, notre héros, toujours aussi taciturne tant en parole qu'en écrit, mais par Guillemin, là, qui sera le futur évêque, oui, futur évêque de Guangdong. Et la traversée, donc, de Londres à Hong Kong se déroule entre deux violentes tempêtes. La première arrive sitôt passé le Pas-de-Calais, là. Après quoi, les vents contraignent le navire à faire une escale à Rio de Janeiro, dont le site émerveille ces jeunes missionnaires qui n'en reviennent pas, hein. Mais ils sont, par contre, consternés à la vue de la condition des esclaves noirs. Puis le bateau est poussé jusqu'à la côte de l'Australie, d'où il remonte vers son but à travers les îles de l'Océanie Et un jour, on s'échoue même sur un banc de sable immergé en vue d'une île remplie de cannibales. Néron et ses compagnons offrent leur aide pour les manœuvres de renflouement. Puis heureusement, il y a un vent qui les aide et vogue la galère. Mais à l'approche de Hong Kong, le vent se déchaîne et soulève une tempête où leur bateau laisse ses trois mâts. Il perd les trois mâts, mais il amène sa cargaison puis ses passagers à bon port. Le 15 janvier 1849, après 5 mois... et 5 jours de navigation, c'est tout un voyage. Aujourd'hui, il est question d'un saint merveilleux, comme beaucoup de ces jeunes du siècle dernier qui partent avec un courage incroyable pour sauver les âmes. Sauver les âmes, comme nous dit la chanson. Hein? Sauver mon âme. De la procure des missions de Hong Kong, notre ami François Néron écrit 2 lettres. Malheureusement perdu. Une à sa famille pour lui annoncer que le voyage est bien fait, qu'il est bien arrivé. L'autre à son jeune ami, là, Jean-Louis Bonnard, le futur Saint Jean-Louis Bonnard, encore à Paris, membre des missions étrangères, pour lui raconter la traversée. 1 mois seulement après son arrivée à Hong Kong, il peut partir pour le Tonkin, le nord de l'Indochine, je vous le rappelle, en compagnie d'un Dominicain espagnol. Et les deux missionnaires s'embarquent à Macao. Sur une jonque, vous savez, ces bateaux chinois, de contrebandiers chinois, justement, pour se rendre chez les chrétiens, dans la région mi-chinoise, mi-tonkinoise de Lafu. L-A, trait d'union, P-H-U, Lafu. Là, on possède le récit de François Néron, un récit qu'il a écrit à sa famille. Il doit tout d'abord se familiariser avec le flegme extrême-oriental, ces gens-là sont flegmatiques, un peu secrets. La jonque est nettement moins rapide que le beau clipper à 3 mâts des Anglais pour traverser l'Atlantique, là. Avec ceux-ci, quand on rencontrait un obstacle, on le forçait ou on le contournait. Avec les Chinois, on s'arrête en attendant que l'obstacle disparaisse. Ils n'ont pas traversé l'Atlantique, ils sont descendus de l'Atlantique. Je vous lis un passage de la lettre du jeune Saint-François Néron. Il écrit, la traversée fut de 8 jours. Un bâtiment européen l'eut fait en 2 jours, de Hong Kong à Lafu. C'est que notre vaisseau était ordinairement à l'ancre depuis les 6 ou même les 4 heures du soir jusqu'à la pointe du jour. Comment, avec cela, voguer rapidement? Pendant tout le voyage, il nous fut interdit de paraître au grand jour, et nous avions pour consigne, imaginez, de nous tenir blottis au fond du vaisseau. La nuit seulement, nous pouvions monter sur le pont. Encore fallait-il que nos gens n'aperçussent aucun vaisseau sur la mer. C'est pas facile, voyager à la noirceur comme ça. À la fou, notre catéchiste s'était hâté de tout préparer pour nous transporter dans le Tonkin central. Là, nous sommes montés donc sur des barques de la contrée, impatients à gagner le lieu de notre résidence. Mais nous avions compté sans les lenteurs chinoises. Quand nos rameurs avaient manœuvré 1 ou 2 heures, ils jetaient l'ancre pour attendre un vent favorable. Et le vent devenait-il favorable? C'était l'eau qui manquait par suite du reflux de la mer. Des rameurs français, dit-il, ne nous eussent pas laissés dans cet état d'immobilité. Il lui suffit de quelques coups de rame pour faire avancer nos barques. Alors, quoi qu'il en soit, après 2 jours d'attente, pendant lesquels nous soupirions, tantôt après le vent, tantôt après l'eau, nos gens, fatigués de cette stratégie sans résultat, prirent le parti de nous reconduire tout simplement à la fou. À peine y étions-nous entrés que retentit le cri « Le mandarin! Le mandarin !» Oui, le mandarin vient visiter le village. Je vous laisse à penser la panique qui s'est emparée de chacun et de notre empressement à nous cacher, car il ne faut pas que vous oubliez que nous sommes en pays de persécution. Nous quittons donc avec précipitation notre demeure pour gagner une maison plus retirée. Et une fois en sûreté, nous avons appris que la visite du mandarin était remise au lendemain. Alors nous savons regagner notre première habitation avec le dessein de nous mettre en route dès les 3 heures du matin. Dès qu'ils arrivent, comme vous voyez, ils sont dans l'angoisse. Car il faut fuir le martyr, il ne faut pas aller au-devant comme ça. il est sage de le fuir. Mais si on est pris, le vrai martyr s'offre. Si voilà, voilà donc une des rares fois où François Néron donne tout un... autant de détails sur ses aventures, parce que ainsi, dès ses premiers pas, il fait connaissance avec sa nouvelle patrie, comme vous voyez. La vie qu'il y attend est dure, dure. Surtout à un certain âge, un homme va l'y aider. Il tombe dans ses bras. Le 28 mars 1849, c'est son évêque. Un excellent évêque, le fameux Monseigneur Retort. Illustre à cette époque. Dans ce temps-là, ben, il y a 150 ans, quoi, on perdait pas de temps. Sitôt fini les effusions, le nouveau missionnaire est envoyé par son évêque au séminaire de Vintry pour l'étude de la langue. Le futur évêque Joseph Teurel, un autre Français, se souvient. Il écrit sa voix, naturellement peu flexible, à François Néron, se prêta péniblement aux accentuations de la langue. Quand on parle ces langues orientales, vous savez tout ça, j'imagine qu'il y a des accentuations un peu comme de sur une portée de musique. Hein. Mais l'application, dit-il, incroyable que François Néron apporta à ce point important, l'eut bien vite fait triompher de cette difficulté. Et après 4 mois d'efforts, il fut à même de faire l'administration des chrétiens. Faire l'administration des chrétiens, c'est-à-dire exercer ses tâches de prêtre. Toute la vie de François Néron, Saint François Néron, tient dans cette phrase. Il arrive en retardataire, vous avez vu, hein, il était avec des petits garçons à l'école. Même, on pourrait dire qu'il était presque un handicapé. Il a l'humilité d'en être profondément conscient. Et il rétablit l'équilibre à force de travail acharné. Car être à même de procéder à l'administration des chrétientés après 4 mois de langue, c'est anormal, ça n'a pas de sens. Hein? C'est-à-dire anormalement rapide. Il est brillant. Le nouveau missionnaire commence donc sa carrière à Hanoï, en compagnie de 3 anciens, dont un a 3 ans de plus que lui, et les 2 autres 3 ans de moins. Cette grande ville, tout en chaume et en torchis, c'est la capitale du Tonkin, c'est-à-dire de tout le nord du Vietnam. Et le vice-roi ne semble pas du tout, heureusement, préoccupé d'appliquer les édits de persécution qui n'ont jamais été abrogés, mais qui semblent plus ou moins en sommeil depuis l'avènement de Thu Duc, le nouvel empereur. Aussi, François Néron a-t-il la surprise d'exercer son ministère presque à visage découvert. Il lui arrive couramment de prêcher dans des villages qui sont à moitié chrétiens, à moitié païens. Et quand des chrétiens l'invitent à venir bénir leur maison, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des païens qui l'arrêtent en route pour lui demander de leur rendre le même service. Eux, c'est pour chasser les mauvais esprits. Et nous, c'est pour chasser les démons. Comme quoi, nous sommes bien près les uns des autres, au fond. Ah, si nous connaissions tous le Christ et étions tous unis, hein, autour de l'amour révélé de Dieu. Ils passent des heures au confessionnal, parfois la nuit entière, à écouter dans leur langue ses confessions. Heureusement qu'il est doté d'une santé robuste, hein, qui va lui être d'un grand secours lors de la terrible épidémie de choléra qui s'abat sur le Tonkin au début de 1850. Parce que jour et nuit, là, les prêtres sont occupés à assister les mourants. Puis écoutez bien ça, c'est terrible. La mission perd ainsi 12 prêtres vietnamiens. 12 prêtres vietnamiens, c'est terrible, qui meurent du choléra. L'évêque et 5 missionnaires, dont Saint François Néron, sont atteints. Mais heureusement, ils s'en sortent. Ils sont plus costauds probablement que ces prêtres vietnamiens. On estime, écoutez bien, à 2 millions le total des victimes, dont 10 000 chrétiens. 10 000 chrétiens. Que ce pays est dur, le Tonkin, pour ce jeune missionnaire. En août de la même année, une grande joie va consoler Saint François Néron. C'est l'arrivée de son jeune ami de cœur du séminaire des missions étrangères, Jean-Louis Bonnard, le futur Saint Jean-Louis Bonnard. Le seul, semble-t-il, avec son ami du Jura, là, dont je vous ai parlé plusieurs fois, à lui avoir inspiré quelques sentiments d'amitié. Mais cette fois, c'est de courte durée. Au même moment, l'empereur Tuduc réactive les édits de persécution de son grand-père Min Mang. Et le 1er mai 1851, Augustin Scheffler, Saint Augustin Scheffler, est décapité à Sontai. Un an plus tard, 52, jour pour jour, le 1er mai, c'est Jean-Louis Bonnard, l'ami, qui subit le même supplice à Namdine. Saint François Néron est rendu à sa solitude. Mais il faut continuer avec cette plaie au cœur. La mort n'existe pas. C'est une nouvelle naissance, la plus grande, comme je vous ai dit hier, dans cette émission sur la mort. Et il sait bien que son ami Jean-Louis est au ciel. Alors Néron continue. En 1852, dans le district de Kinsong. En 1854, il est au séminaire de Vinh Tri, où il compose en vietnamien, écoutez bien, un précis d'arithmétique, un précis d'algèbre, un précis de géométrie. Que ces missionnaires sont fantastiques. Qu'est-ce qu'on fait à ne rien faire quand il y a tant de choses à faire pour sauver les âmes, pour les amener à être heureux? Chargé de la visite des autres séminaires, il tombe entre les mains d'un mandarin des douanes qui, heureusement, le relâche pour 640 francs. Au moment où il est désigné pour administrer le district de Sontai, où Scheffler, le saint, là, a été décapité 5 ans plus tôt, Saint François Néron fait à Monseigneur Ter une chose qu'il fait rarement, une confidence. Mais comme toujours, à retardement, voilà. Il avait été un jour à Notre-Dame-des-Victoires en compagnie de Saint Jean-Louis Bonnard et d'un autre aspirant nommé Duchesne. Là, ils ont rencontré un prêtre qui a dit à Bonnard et à Néron qu'il serait martyr et à Duchesne qu'il rentrerait dans son diocèse pour y mourir. Et Duchesne, poitrinaire, est rentré en effet dans son diocèse et y est mort. Jean-Louis Bonnard est mort martyr, comme vous le savez, à Namdine, il y a 4 ans. Restait humble et vaillant notre ami Néron. 6 ans de ministère avec au bout une passion et enfin la mort qu'il souhaite. En 1855, Saint François Néron part pour la province de Sontai en tête du delta du fleuve Rouge. Il entreprend de visiter les chrétientés. Et il lui faut constater que les chrétiens ont peur. Il doit bien les comprendre, ces pauvres gens. Qui n'aurait pas peur? Qui n'aurait pas peur? C'est que l'empereur aggrave sa persécution, hein? Et Saint François Néron se cache de son mieux. Il change de résidence plus souvent qu'il le peut. Il est arrêté finalement le 17 mars 1857 à Taxa, alors qu'il célèbre la messe dans un petit couvent, le couvent des Amantes de la Croix. Et grâce à des complicités, heureusement, il s'évade. Et dès lors, il vit en homme traqué une existence très rude au cours de laquelle il peut rendre service à ces chrétiens qu'il aime tant, dans la mesure de ses possibilités qui sont réduites. Il est arrêté une seconde fois, en 1858, par un chef de canton qui consent encore à le relâcher moyennant 300 ligatures. En 1860, on commence à parler d'une déportation générale des chrétiens dans les régions insalubres. Alors Saint François Néron connaît alors la pire des épreuves pour un missionnaire. Il se trouve être, imaginez, le pasteur, le curé, le pasteur, quoi, d'un troupeau qui voudrait le voir s'éloigner, imaginez. Terrible. Pourquoi? Parce que cette situation impossible se dénoue finalement. C'est trop dangereux pour eux. Ça se dénoue brusquement. Le 6 août 1860, il est dénoncé par un maire de village qui s'adonne à être un chrétien, malheureusement, et qui trahit. Et Saint François Néron en pleure. Mais en même temps, il en est presque soulagé. Enfin, il est prisonnier. Et à partir de ce moment, on dirait qu'il a largué les amarres avec notre monde. il se prépare à rencontrer Dieu. Il répond avec son laconisme habituel. Il est presque silencieux dans ses réponses. Il refuse toute déclaration susceptible de compromettre ses chrétiens. Alors là, on le menace du rotin. C'est d'une flagellation. Vous savez, des meubles en rotin, c'est dur, du rotin. Alors, il est menacé d'être flagellé. Il répond avec douceur, « Je n'en suis pas effrayé. L'ange de Dieu saura bien me guérir des blessures qu'on m'infligera. » Alors, il est frappé de 6 coups. 6 coups. Il ne répond plus rien aux nouvelles questions. Il est d'un silence total. Alors la bastonnade reprend. Imaginez, il reçoit 40 coups et au 40e coup, ordre est donné aux soldats de s'arrêter, on craint qu'il ne meure. Saint François Néron se relève et sans prononcer une parole, il rentre dans sa cage de bambou où il peut à peine se tenir. C'est de petites cages de bambou. Il reçoit plusieurs lettres du successeur de Monseigneur Retor, c'est Monseigneur Jeantet. Il en reçoit aussi de Monseigneur Terrel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, son coadjuteur, qui se crie pupe tous les deux de faire adoucir sa captivité, mais il ne répond pas. À partir du 4 septembre 1860, il observe un jeûne absolu. Pendant 20 jours, il boit uniquement un peu d'eau le matin, sans sembler en éprouver de gêne. Il continue chaque jour sa petite promenade hors de sa cage. Et c'est fait aussi parfois sa nourriture de peu de soupe au poisson, de poisson bouilli, d'une sorte de liseron cuit à l'eau, bien de bourgeon, d'une certaine plante préparée avec un soupçon de graisse. C'est comme ça qu'il mangeait. Il mangeait presque jamais de viande. Il était habitué au jeûne. Et là, il jeûne totalement pendant 21 jours. Seulement de l'eau le matin. Et le préfet dit que pour être encore vivant après une telle épreuve, il a perdu la moitié de son poids. Le prisonnier doit être devenu un Bouddha consommé. Et il signale le fait dans son rapport à l'empereur. Du coup, plusieurs pensent qu'il sera convoqué à la capitale, mais l'empereur approuve simplement la sentence, telle que l'a rédigée le tribunal de Son Tai. C'est la décapitation. C'est le 3 novembre 1860 que le condamné sera conduit au supplice. Qu'est-ce que c'est que cette sentence? Eh bien, il a été gardé, n'oubliez pas, 3 mois en détention dans sa cage. 3 mois. Il n'a jamais changé de vêtements pendant tout ce temps, même s'il était dévoré par la vermine. Au début de novembre, comme je viens de vous dire, le document royal de la condamnation du père Néron, qui est rédigé à huée, ce document, arrive à Son Tai. Voici le texte. L'accusé Ko Bak. Ko, c'est un titre honorifique, au fond, de respect. Ko Bak est vraiment un prêtre de la religion de Jésus, qui n'a pas craint de s'introduire en cachette dans notre royaume pour tromper les gens par sa fausse doctrine. Nous ordonnons qu'il soit décapité sans retard et que sa tête, exposée pendant 3 jours, soit ensuite jetée dans le fleuve. Alors le père Néron, Saint François Néron, était un personnage important aux yeux des mandarins. Son prestige s'est encore accru par suite du jeûne de 3 semaines qu'il a observé et par le silence impressionnant qu'il a gardé. on a choisi comme lieu de la décapitation un champ à 2 kilomètres de la ville. C'est un cortège important qui y conduit le père Néron. Les tambours scandent la marche. Le condamné, escorté de gardes, porte le sabre nu, le sabre qui servira à la décapitation. Une centaine de soldats, armés de piques et portant des banderoles multicolores, et finalement le lieutenant-colonel chargé de l'exécution, qui lui doit tenir ce sabre. Tout à l'heure, après le dialogue entre le lieutenant-colonel et le père Néron, tel que je vous l'ai dit, je vous le rappelle, c'est un dialogue bouleversant, je vous l'ai lu tout à l'heure. Il lui a dit, maître, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre nouvelle patrie. Pardonnez-moi et souvenez-vous de moi. Le roi, les grands dignitaires du royaume et les grands mandarins de la province vous ont condamné. C'est là qu'il y a eu tous ces martyrs à cette époque qui ont été canonisés il y a 10 ans. Les païens ont été impressionnés. Après le dialogue entre le lieutenant-colonel et le père Néron, tel que je vous l'ai rapporté, mais le condamné se met à genoux, il adosse un poteau, on lui lie les mains. D'un seul coup de sabre, le bourreau lui tranche la tête, mais elle pend au bout d'un peu de peau. C'est tragique et terrible. Les païens sont impressionnés par certains faits qui ont eu lieu lors de l'exécution. On remarque que le corps du père Néron n'a éprouvé aucune convulsion, ni avant, ni pendant, ni après le coup de sabre. Il est resté en Dieu. De plus, quoique le temps soit superbe, il se forme instantanément un gros nuage et une pluie diluvienne se met à tomber. Alors on dit cet Européen calme, menant une vie solitaire, a été injustement condamné à mort, ou si le ciel est ébranlé. Alors un païen, oui, un confucianiste, un bouddhiste, je ne sais pas, de la ville, réclame le corps. Il le remet aux chrétiens qui lui donnent la sépulture et le mettent dans un cercueil. Mais la tête doit être exposée pendant 3 jours, comme je vous ai dit, mais on la met discrètement dans une caisse avec un écriteau public qui rappelle l'événement. Le capitaine, accompagné de 2 soldats, est chargé par le préfet de le jeter au fleuve. Voici ce qui est rapporté par Mgr Thurel au sujet de la tête de Saint-Pierre-François Néron. Lorsqu'ils arrivèrent au bord du fleuve, ouvrant la caisse qui renfermait la tête, ils virent, ont-ils dit tous les 3, un globe rouge d'environ 4 pouces de diamètre s'élever de la caisse jusqu'au ciel. Je rapporte ce fait sans me prononcer sur son authenticité. Quoi qu'il en soit du globe rouge, les 3 capitaines, après avoir demandé 1000 pardons, à la tête du martyr, la jetèrent réellement au fleuve, où elle ne fut pas retrouvée. Les chrétiens de Sontai se sont évidemment montrés lors des exécutions de Saint-Jean-Charles Cornet en 1837 et de Saint-Augustin Schoeffler en 1851, mais en 1860, la panique les a fait disparaître, ils ont eu trop peur, de sorte qu'ils sont absents pour l'exécution de Saint-François Néron. Heureusement, il y avait les païens, comme vous voyez. Ainsi est mort Saint-François Néron, chaque martyr a son style. Saint-Jean-Charles Cornet chantait. Saint-Jean-Louis Bonnard écrivait longuement à son évêque pour raconter les détails de sa captivité. Saint-François Néron, lui, connaît et semble-t-il a voulu connaître l'absolue déréliction. Et ce sont ses gardiens et ses bourreaux qui lui rendent hommage. Saint Isidore Cagelin est mort à 33 ans. Saint Joseph Marchand, 33 ans aussi. Saint Jean-Charles Cornet, à 28. Saint François Jacquard, à 38. Saint Pierre Bory, à 30. Saint Augustin Schoeffler, à 29. Saint Jean-Louis Bonnard, à 28. Mais lui, à 42 ans, Saint François Néron. Mais n'empêche que cet humble soldat du Christ est arrivé à son but, mourir par amour pour le Christ et pour les Vietnamiens. Toute la vie de Néron se résume dans ce paradoxe presque humoristique quand on y pense, avec ce nom de famille étrange, Néron, mais il est mort martyr du Christ.